Bienvenue dans le podcast de la Maison des Maternelles. Aujourd'hui, vous allez entendre l'histoire incroyable de Véronique. Alors, on lui avait dit à Véronique qu'elle n'aurait jamais d'enfant. Elle en a 3 aujourd'hui. Ensuite, le docteur Louis Marcelin, gynécologue, va nous éclairer sur ses bébés miracles. On le sait, hein, si vous êtes des fidèles de la Maison des Maternelles, les grossesses regorgent de mystères. Je crois que voilà, la lumière fuit, ça y est. Je me disais, tiens, on est dans le noir, mais Véronique, bonjour.
Bonjour Agathe.
Je suis tellement contente que vous veniez sur ce plateau pour nous raconter votre histoire qui est absolument géniale parce qu'elle est pleine d'espoir et qu'en plus elle est miraculeuse. Ici, on adore les miracles. Pendant 7 ans avec votre mari, vous avez, on va dire, vraiment tout essayé, toute la panoplie pour avoir un bébé. Et puis, on vous dit, bah non, hein, désolée la Véronique, malheureusement, la maternité, ce n'est pas pour vous. Jamais vous ne tomberez enceinte. Et bah, voilà que Cassie, qui a 6 ans aujourd'hui, a pointé le bout de son nez. Raphaël, qui a 4 ans. Et enfin, Luna, qui a 3 ans. Donc, ce n'est pas un miracle, c'est même 3. Donc, on est très heureux que vous veniez nous raconter ça. On revient en arrière, si vous êtes d'accord. Vous rencontrez votre conjoint à l'âge de 17 ans. Vous êtes super amoureux. Vous emménagez ensemble quand vous avez 18 ans et lui 23. Alors, c'est venu quand, cette envie de fonder une famille ?
Bah, très rapidement, parce que étant jeune, j'ai subi un cancer. Donc, je savais que...
Alors, c'est pas n'importe quel cancer, en plus, c'est un cancer de l'ovaire.
Un cancer de l'ovaire qui ne bloquait pas normalement la grossesse. Mm-hmm. Du coup, on a enchaîné quand même rapidement l'envie, mais, cette envie.
Que je comprenne bien, on voulait enlever l'ovaire, donc il faut rester qu'un ovaire, c'est ça.
Okay. Un ovaire plus chimiothérapie.
D'accord, ok. Etc. Bon, déjà, quand même, c'est un gros trauma. Oui. Et ensuite, vous vous dites, tiens, quand même, bah, ça ne nous empêche pas d'avoir
l'envie
un enfant.
L'envie de vivre et puis l'amour des débuts. On a tout de suite eu envie de concevoir.
Bon, quelques temps après, vous tombez enceinte.
Oui. Malheureusement, on a découvert les fausses couches.
Ah oui, alors ça, c'est très, très difficile.
Chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'est pas préparé.
Oui, on peut le redire ici, c'est toujours un énorme traumatisme pour une femme. Oui. Ça a été votre cas, Véronique,
oui. Oui, ça a été très, très compliqué de rebondir. Enfin, je pense comme tout le monde. Mmh. Mais on n'était pas préparé à ça.
Oui. Alors, les 2 années qui ont suivi cette fausse couche, elles ont été rythmées par tout un tas d'examens, des tests, toujours pas de grossesse. Alors, on va vite vous diriger vers un parcours PMA, ce qui est le protocole. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Est-ce que vous étiez confiante ?
On était confiants. Après tant d'échecs, après tant d'attentes, pour nous, la PMA, c'était la clé. Mmh.
Donc, vous avez commencé avec une insémination ?
Tout à fait. On a commencé insémination. Qui malheureusement, la première n'a pas fonctionné, la deuxième non plus.
Et donc là, on vous dit quoi, alors, à ce moment-là, quand ça ne marche pas ?
Rien de spécial.
On ne vous dit rien ?
Non.
C'est vous qui devez reprendre les rendez-vous, etc.
Oui, enfin, on dit qu'il faut continuer, qu'il faut persévérer, parce que la PMA, c'est comme la nature, ça ne fonctionne pas à chaque fois. Mm-hmm. Mais...
Et là, on vous dit, bon, bah, à un moment, comme il y a 3 inséminations qui ne marchent pas, les médecins... Vous conseillez quand même la FIV, c'est-à-dire que vous êtes toujours dans le parcours PMA. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Parce que là, on passe quand même à un autre stade.
On passe à un autre stade, mais quand on a enchaîné déjà 3 inséminations auxquelles on y croyait, on s'est dit, bon, ben, on va essayer autre chose. Mmh. Du coup, c'est de nouveaux espoirs. On se dit, ben, après la FIV, logiquement, il y a un bébé.
Alors, racontez-nous, parce que la première chose qu'on fait quand on décide de faire une FIV avec un couple, c'est de regarder un petit peu les ovocytes et comment ça se passe.
Tout à fait, c'est très, très suivi, très, on rentre dans l'intimité. Enfin, c'est vrai que c'est plus, on n'est plus dans la confection d'un bébé.
Et on vous dit quoi alors à vous à ce moment-là ? On vous dit que, que tout va bien, que vous pouvez...
Oui, oui. On n'a jamais pointé du doigt un problème.
Alors à un moment même, on vous annonce 5 embryons.
Oui.
Donc là, vous y croyez ?
Oui.
Ah, vous vous dites, ça y est, quoi, je vais tomber enceinte. Malheureusement, 6 semaines plus tard, nouveau coup dur parce que vous refaites une fausse couche. Mmh. Alors là, j'imagine que ça a dû être très, très difficile. Ça fait, là, si on fait le point, 5 ans que vous essayez de faire un enfant. Quand même.
Tout à fait.
5 ans, c'est très, très long. À la suite de cet échec, vous allez changer de centre de PMA. Vous allez repartir dans 3 essais de FIV. Encore une fois, des échecs. Enfin, je veux dire, là, je résume, mais il faut se mettre à la place de Véronique, vous qui nous regardez, et son conjoint. C'est-à-dire que c'est vraiment des années et des années d'espoir, de déception, de montagnes russes en permanence
très,
qui sont
très, très, long,
très, très difficiles. Oui.
Très, très long. Et puis, on a toujours l'espoir.
Bien sûr.
Malgré les échecs.
Alors, en juin,
tombe, on remonte. Mais, ouais.
En juin 2015, le centre de PMA vous contacte. Qu'est-ce qu'ils vous disent à ce moment-là?
On a fait un point avec le centre de PMA, qui malheureusement, après tant de FIV et tant de décès, ils arrêtaient de nous suivre sur les traitements basiques. On nous orientait vers le don d'ovocytes ou l'adoption.
Donc ils vous disent, voilà, on a fait tout ce qui est humainement possible pour concevoir un enfant hors don d'ovocytes. Là, ce n'est pas possible, quoi.
Non, voilà. Ils ne nous suivaient plus.
Vous ont expliqué que vous ne serez jamais maman, quoi. Sauf si vous alliez vers...
Voilà, il faudrait soit un don, soit l'adoption.
Comment vous avez fait pour digérer cette nouvelle?
On a tout lâché. Marie et moi, on a arrêté, enfin, on n'a plus parlé de PMA, on verrait plus tard. Après tant de suivi et tant d'attentes, on s'est reconcentré sur nous, sur nos carrières professionnelles.
Ouais, vous avez un peu oublié, vous avez laissé le projet de côté.
C'est ça. Pour nous, on avait arrêté cet essai.
Oui, surtout que vous aviez un boulot avec des responsabilités. Donc,
Moi j'ai repris ma carrière professionnelle, mon mari s'est séparé de son côté, on a passé beaucoup de temps ensemble. Enfin, les jeunes, le couple, on s'est retrouvés en couple après.
Oui, vous avez refait la fête un petit peu, parce que c'est vrai que pendant des années, on ne vit que par et pour ça,
oui,
Véronique.
Oui.
Au retour des vacances, votre vie va tout à coup prendre une direction inattendue, c'est rien de le dire. Alors racontez-moi ça par le menu.
Par le menu, c'est monsieur qui a tiré la sonnette d'alarme, parce que moi je ne calculais pas, il me demande mais t'as plus tes règles? Je sais pas.
je sais plus,
enfin, c'était quelque chose qui était sorti de ma tête. Et on a appris que finalement, test était positif.
Non, mais attendez, il vous dit, ça fait longtemps que tu n'as pas eu tes règles. À ce moment-là, vous vous dites quoi, vous?
C'est lui qui a insisté à faire un test. Monsieur, ça fait longtemps. Enfin, du coup, il a calculé, il m'a dit, mais ça date de, oula, de août, on était mi-septembre.
Ah ouais, ça... ouais, donc...
T'es en retard, t'as jamais été en retard.
Vous n'y croyez pas, Véronique?
Non.
Avec ce qu'on vous avait dit, vous disiez, c'est pas... enfin, avec tous les essais, etc. Ouais. Vous dites, c'est pas possible.
C'est pas possible.
Oui, comment il réagit alors votre conjoint quand vous avez le test de grossesse positif?
On reste sur la retenue. Même si lui était déjà croyant.
Ouais.
Moi, je restais sur la retenue. On verra. Enfin, ouais. On a déjà connu les positifs.
Oui. Et ça s'est saldé par des fausses couches. Donc je comprends. Hein, chat échaudé. Les mois passent. Votre ventre s'arrondit, Véronique. Donc la grossesse s'épanouit. Vous êtes fatiguée, etc., mais vous avez quand même encore du mal à vous projeter. Et en fait, finalement, c'est que le jour J, c'est le jour de l'accouchement, que vous avez vraiment réalisé que ça avait marché, quoi, que vous alliez être maman.
Oui, c'est la vie qui change.
Avant ça, vous n'osiez pas y croire?
Non. Bah, après tant de fausses couches, même si le ventre grossit, etc., on a envie d'y croire. On a envie, mais on se protège.
Oui, je comprends.
Après tant d'années, on se protège toujours.
Après tant de déceptions.
Ouais.
Après la naissance de Cassie, donc vous êtes une maman comblée. Puis 2 ans après, il y a une autre nouvelle qui vient bouleverser votre vie.
Oui.
Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Là, c'est encore votre conjoint qui vous a dit, dis-moi, de nouveau, ça fait longtemps que tu n'as pas eu tes règles.
Oui.
C'est vrai, c'est encore lui?
Ah oui.
Ah bah dis donc.
Ah oui, parce que j'étais sous pilule. Sauf qu'après tant d'années, la pilule, elle n'était pas carrée.
Oui.
C'est pas grave, je suis... Voilà, c'est...
Oui.
Mais finalement, si, la grande nouvelle.
Donc vous êtes tombée enceinte du deuxième sous pilule?
Oui.
Mais c'est un truc de dingue quand même, Véronique. C'est-à-dire que là, c'est au-delà du miracle, quoi. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant, vous en faites un naturellement. Déjà, on pourrait se dire, c'est formidable. Un deuxième, mais sous pilule en plus. Non, ben voilà. Donc après une grossesse passée aussi vite que l'éclair, vous allez donner naissance à Raphaël. En mai 2018, bonheur absolu, vous avez une fille, un garçon... Et un an pile plus tard, le scénario se répète une troisième fois. Mais ne me dites pas que c'est encore lui qui a dit, qui a remarqué qu'il y avait un retard, là.
Non, cette fois, on l'a calculé ensemble.
Ça va. Bon, comment vous en êtes rendu compte de cette troisième grossesse?
C'était pareil, j'étais toujours sous pilule.
Oui.
Mais finalement, j'étais plus carrée parce que mon deuxième, Raphaël, on savait que finalement, il y avait un petit doute.
Oui.
Mais elle était là.
C'est dingue, quoi. Le troisième accouchement, ça s'est bien passé?
Super. Je crois que c'était... Elle n'était pas prévue, celle-là. On ne l'attendait pas. Mais je crois que ça a été le point final de notre famille.
Est-ce que pendant la grossesse, vous êtes autorisée à y croire quand même pour cette troisième grossesse, j'imagine?
Oui, je crois que c'est la grossesse de la délivrance, je ne sais pas. Pourtant, on s'était arrêté à deux, on était bien à deux, mais j'ai profité de cette dernière grossesse. C'est vraiment le point final où ce fameux miracle, où on a envie d'y croire.
Oui, puis on a envie d'appeler le centre PMA en disant « Bon, vous avez vu, j'ai réussi à en faire trois. » Qu'est-ce que ça vous inspire avec le recul, ce parcours extraordinaire? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos téléspectateurs qui sont
J'y crois toujours pas. À l'époque, je n'y croyais pas. Et finalement, je suis bien obligée d'y croire. ça arrive et...
Il faut toujours y croire. Bonjour docteur Louis Marcelin, merci d'être avec nous.
Merci.
Alors vous êtes gynécologue obstétricien à la maternité de Port-Royal à Paris. On l'a vu dans le témoignage de Véronique, donc elle a eu un parcours quand même très très long, des fausses couches, des inséminations, des FIV. On lui dit bon bah voilà, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant et finalement on en a trois naturellement. Comment est-ce qu'on peut expliquer que certaines femmes, malgré l'échec de la PMA, arrivent à concevoir naturellement?
Oui, alors là c'est un témoignage qui est incroyable et qui doit donner plein d'espoir à toutes les femmes qui sont dans des parcours difficiles. Je pense que c'est un témoignage qui force l'humilité sur le fait que malheureusement, il y a des choses qu'on n'explique pas.
C'est ça.
Et c'est tout scientifique qu'on peut être à essayer de comprendre la fusion gamétique, comment un embryon va s'implanter, comment il va se créer. Parfois, on n'explique pas pourquoi il y a des grossesses spontanées. Et c'est vrai qu'il y a des patientes comme Véronique qui ont des histoires de longs parcours en PMA avec ce sentiment parfois de désespoir, de grossesse qui n'arrive pas. Et puis, aller savoir pourquoi, il y a un moment, un événement heureux qui fait qu'il y a une grossesse qui arrive, qui se passe bien, avec un accouchement qui se passe bien, un enfant qui naît. Et puis, alors, la vraie question, c'est de se dire, est-ce que le fait d'avoir une première grossesse va augmenter les chances d'avoir une autre grossesse spontanée après? On n'a pas la réponse, mais c'est des données un peu... De biologie fondamentale, mais se dire est-ce que l'immunologie de la grossesse n'est pas améliorée par une première grossesse?
Oui, c'est ça.
Puisque finalement, être enceinte, c'est accueillir un être qui n'est pas du soi pendant une période déterminée et qu'il y a une tolérance immunitaire pendant certaines...
C'est un corps étranger.
Il y a la moitié du papa et la moitié de la maman, et puis ça fait un être autonome qui va se greffer dans l'utérus pendant 9 mois. Et puis au bout de 9 mois, l'horloge biologique fait que voilà, il faut sortir maintenant.
Oui,
et donc il y a des phénomènes de rupture immunitaire qui fait que la grossesse va arriver à son terme et accoucher. Mais est-ce que le fait d'avoir été enceinte va améliorer les chances de grossesse spontanée à la grossesse suivante? Ça, on ne sait pas. Mais,
il n'y a pas d'études, mais vous avez une intime conviction?
Il y a peut-être un effet positif de la grossesse sur la grossesse.
Je me souviens que ma gynécologue m'avait dit que quand on faisait une fausse couche, le corps était préparé et que c'était plus facile de tomber enceinte après. C'est vrai,
oui,
ça?
Alors,
c'est pour remonter le moral des patientes.
Non, mais à nouveau, il y a plein de discours qu'on peut avoir, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des raisons médicales à l'infertilité, il y a des raisons médicales aux fausses couches, et puis il y a des espèces de phénomènes incroyables qui fait qu'on est enceinte. Malheureusement, la première n'a pas marché, et puis la suivante arrive.
Ah, c'est la beauté de la vie, ça fait plaisir d'entendre des histoires comme ça.
On n'explique pas tout, c'est sûr.
Et nous?
Alors docteur, Victoire a besoin de vos lumières. Elle vous dit « Je suis atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, je pense au parcours PMA, mais je ne sais pas du tout comment ça se passe. Quels sont les différents types de prise en charge ?»
Alors, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est une situation gynécologique très fréquente. Effectivement, c'est un problème d'ovulation. Donc, quand on a les ovaires polykystiques, on a trop d'ovules dans les ovaires et il n'y en a pas un qui arrive à devenir dominant pour ovuler correctement. Et donc, on a des techniques pour essayer de provoquer l'ovulation. Alors, on peut provoquer l'ovulation avec des médicaments et puis simplement dire aux patientes, voilà, on va déclencher votre ovulation à tel moment et il faudra avoir des rapports sexuels à ce moment-là pour favoriser la fécondation spontanée. Et puis, si jamais ça ne marche pas, on peut passer par des techniques de contrôle de l'ovulation avec des inséminations de spermatozoïdes au moment de l'ovulation qu'on aura déclenchée. Et puis, si après ça ne marche pas dans ces moments-là, on est obligé de faire de la fécondation in vitro, donc c'est de l'assistance médicale à la procréation, mais qui est un peu plus lourde, où il faut stimuler fortement les ovaires, aller récupérer les ovocytes par des phénomènes de ponction éco-guidée transvaginale. On récupère les ovocytes, on crée un embryon in vitro avec les spermatozoïdes du conjoint,
et
on va remettre l'embryon ensuite secondairement.
Clairement.
Oui, il y a plusieurs solutions avec des degrés de complexité croissante en fonction des difficultés rencontrées. Ouais.
Alors Sandra nous dit, un médecin m'a dit un jour qu'au vu de la qualité de ma réserve ovarienne, je n'aurai jamais d'enfant, c'était une extrême violence. Conseillez-vous un suivi psy dans les longs parcours de procréation? Et moi j'ajouterais aussi, et vous, est-ce qu'en tant que médecin, on vous apprend à éviter ce genre de phrases un peu...
Oui, alors les phrases un peu assassines comme ça, de « vous n'aurez jamais d'enfant », c'est l'histoire de Véronique nous montre que quand même c'est possible. Toute précaution gardée qui est celle où évidemment il y a une raison médicale évidente au fait que on ne pourra pas avoir de grossesse autrement qu'avec des aides médicales à la procréation ou chez des patients plus âgés qui ont effectivement une fatigue ovarienne avec des réserves ovariennes qui sont plus faibles. Quand même rappeler qu'après 35 ans, les chances de grossesse spontanée, elles commencent à diminuer fortement. Et après 45 ans, des grossesses spontanées, c'est extrêmement rare. Mais sur le fait de la réserve ovarienne, c'est quelque chose d'assez... c'est une donnée... un peu arithmétique, où on parle de réserve ovarienne, mais ce n'est pas ça qui préjuge de la capacité d'avoir une grossesse spontanée ou pas. Et c'est plus des notions qui font référence à la réponse à une stimulation qu'on ferait en assistance médicale à la procréation. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a une réserve ovarienne basse qu'on n'a pas une ovulation spontanée, qu'on n'a pas des trompes qui fonctionnent correctement, qu'il n'y a pas une rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule qui va se passer et qu'il n'y aura pas d'implantation embryonnaire.
Oui, c'est ça, il y en a une réserve basse, mais on a une réserve quand même.
Exactement, c'est qu'il faut un embryon, un ovule et un spermatozoïde à un moment donné. Mais c'est sûr que quand on parle de réserve ovarienne basse, on parle plutôt de potentielle mauvaise réponse à la stimulation en fécondation in vitro.
Quand je vous écoute quand même, même en dehors des réserves ovariennes basses, je me dis quand même, c'est un petit miracle quoi, de faire un enfant. Vous dites, j'ai rencontré la bonne personne. Il y a des histoires quand même... Alors après, c'est totalement empirique, hein, c'est pas non plus prouvé scientifiquement. Enfin, on sent bien quand même des histoires de compatibilité, etc., entre deux personnes. Il faut le faire, enfin, il faut avoir un rapport sexuel au bon moment. Il faut que ça tienne, il faut qu'il... Enfin, c'est un truc de fou quand même.
7 ans et elle continue à s'émerveiller.
Non, mais je suis un peu comme Véronique. Quand on fait ses enfants tard et qu'on s'y attend pas et qu'on les fait naturellement... Ouais. On est aussi quand même. Moi, je suis choquée, quoi. Bon, ça fait 9 ans. Je suis choquée.
Moi, je trouve ça.
Je me dis, mais j'ai réussi à faire ça.
À 9 ans, vous avez conçu.
Ah bah oui, mon premier enfant, il a 9 ans. Bisous à vous, Yassine.
Marina vous dit, j'ai 32 ans et j'ai entendu parler de l'autoconservation des ovocytes. Dans quel cas conseillez-vous de congeler les ovocytes?
Oui,
c'est vrai qu'on en parle beaucoup.
Oui, effectivement. Et c'est vrai que les lois de bioéthique ont changé sur le fait que maintenant, on peut faire une préservation, ce qu'on appelle sociétale, c'est-à-dire que les femmes peuvent demander à congeler leurs ovules en prévision de programmation d'une grossesse ultérieure, sachant que, comme je disais tout à l'heure, plus le temps passe, plus les chances de grossesse spontanée diminuent. Et donc, c'est mieux d'avoir des grossesses avec des ovules de 30 ans que de 40 ans.
Oui,
maintenant, ces techniques de congélation ovocytaire, elles s'adressent quand c'est sociétal, c'est-à-dire que c'est la femme qui demande à congeler ses ovules sans raison médicale. C'est assez encadré, donc c'est entre, si je ne me trompe pas, entre 29 ans et 37 ans, on peut congeler ses ovules sur simple demande. Après, il y a toute situation médicale.
En France?
En France, oui. Exactement.
Oui, maintenant on peut.
Parce que moi, il y a 10 ans, je voulais le faire.
On ne pouvait pas.
Mais on ne pouvait pas, mais il paraît que là, maintenant, il y a des files d'attente.
Oui, alors c'est le problème, c'est que le problème, c'est il y a des difficultés d'organisation et de logistique. C'est-à-dire qu'on a donné la possibilité aux femmes de congeler des ovules à partir de 29 ans sur simple demande, mais ça sous-entend quand même qu'il faut que des infrastructures en aval qui puissent accueillir toutes ces patients qui demanderont
leur congélation. Aujourd'hui, une femme peut venir vous voir en vous disant « j'ai 30 ans, mais je privilégie ma carrière en ce moment, j'ai envie de beaucoup bosser ». Et on répond oui pour cette raison-là.
Oui,
c'est la loi bioéthique.
Il n'y a pas de raison, en fait, c'est ça?
Non, il n'y a pas de raison.
Il n'y a pas besoin de justifier.
Après, il y a des situations médicales, de cancer, des patients qui
décourent
des maladies graves, avec des cancers, qui risquent d'avoir des irradiations, des chimiothérapies qui seront toxiques pour les ovaires, et donc on va congeler les ovules avant d'entreprendre la prise en charge thérapeutique d'une maladie grave. Dans l'endométriose, par exemple, les femmes qu'on va opérer d'endométriose qui ont des volumineux kystes aux ovaires, avant d'enlever ces kystes, qui sont parfois délétères dans la réserve ovarienne, justement, on va proposer aux femmes de congeler leurs ovules avant de faire une chirurgie sévère de l'endométriose. Donc voilà, il y a les indications médicales qui, elles, n'ont pas de limite d'âge, et puis il y a les indications sociétales à partir de 29 ans jusqu'à 37 ans.
Merci au docteur Louis Marcellin, merci à Véronique et merci à vous. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager.